Après la perspective historique énoncée par l'économiste, auteur et politicien européen Alain Lipietz, Maître Geneviève Parent a fait voir le contexte juridique dans lequel se situe ce principe de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité d'un État, d'une autorité, de définir ses propres politiques en matière de sécurité alimentaire. Deux mondes se confrontent sur cette question, celui des tenants des traités de libre-échange et celui des gens, des citoyens et même des politiciens préoccupés par la nécessité, selon eux, de ne pas se laisser dicter les choix en matière alimentaire. Maître Geneviève Parent répondait donc ainsi à la question « Y a-t-il un avenir pour la souveraineté alimentaire? »
Pour un juriste, avec la question posée, on a donc d'emblée un problème puisque c'est difficile de parler en termes juridiques de souveraineté alimentaire. La souveraineté en droit, c'est un concept qui ne peut être subdivisé. Cela réfère, comme mon collègue l'a démontré, là, vraiment aux relations entre les États, d'État et État. Donc, l'État est souverain sur son territoire, sur son peuple. Il ne peut que limiter sa propre souveraineté par des engagements qu'il prendra au plan international et qui pourront effectivement le limiter par la suite dans sa capacité à adopter des lois nationales. Évidemment, à partir de là, on peut être en accord ou non avec les dossiers qu'un État priorise au plan international, mais il reste tout de même que c'est l'expression de sa souveraineté pleine et entière. Donc, traduite au mieux en droit, l'expression « souveraineté alimentaire », ça voudrait dire qu'on est dans une situation où l'État exprime sa souveraineté au plan international, dans un traité, par exemple, en priorisant la sécurité alimentaire. Parce que pour les tenants qui défendent la souveraineté alimentaire, évidemment, l'objectif à atteindre, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations internationales. Donc, c'est un État où une personne aura à tout moment un accès non seulement physique, mais aussi un accès économique à une nourriture non seulement suffisante en quantité, mais aussi saine, nutritive et qui répondent à ses préférences alimentaires pour des raisons culturelles, religieuses ou sociales. Donc, c'est finalement très proche aussi du droit à l'alimentation qui vise les mêmes objectifs. Alors, quelle est la situation actuellement au plan international de la souveraineté en matière alimentaire? Alors, elle est la suivante. D'un côté, on a malgré une très grande perte de diversité alimentaire. Et quand on parle de perte de diversité alimentaire, on vise non seulement la perte de la biodiversité, mais aussi l'homogénéisation des produits que les consommateurs consomment à travers le monde, l'homogénéisation des modes de production également. Donc, malgré cette très grave perte de diversité alimentaire, qui est donc très néfaste pour la sécurité alimentaire, il n'existe pas d'accord international qui témoignerait de l'importance de protéger et de promouvoir donc la diversité et la sécurité alimentaire. Donc, il n'y en a pas. Il existe donc très clairement un vide juridique au plan de l'agroalimentaire à l'international, et on peut s'en étonner. La sécurité alimentaire, c'est la base de la sécurité de toute nation, donc c'est effectivement étonnant de constater qu'il n'y a pas d'accord international qui témoigne de cette importance de protéger la sécurité alimentaire. Mais force est de constater donc que les États n'ont pas exprimé leur souveraineté en matière alimentaire de cette façon-là. Donc, d'un côté, un vide juridique et de l'autre côté, les accords de libéralisation des échanges, les traités internationaux qui existent, auxquels le Canada est parti. Ces traités qui sont très efficaces, et c'est pourquoi on en parle autant d'ailleurs, on peut dire qu'ils prennent très peu en compte les considérations liées à la sécurité alimentaire. Est-ce que c'est leur mandat? Ça, c'est une autre question, mais on constate qu'ils ne prennent pas ou très peu en compte les considérations liées à la sécurité alimentaire. Et ils limitent aussi la possibilité des États, comme le Canada, d'adopter des lois nationales en matière alimentaire. Mais au regard du droit toujours, évidemment, le Canada, parti à ces traités, doit respecter ses engagements internationaux. Et pour ajouter à la complexité, il ne faut pas non plus oublier que la libéralisation des échanges, bien, elle sert en partie la sécurité alimentaire des consommateurs québécois comme d'ailleurs, et elle profite aussi à des producteurs transformateurs québécois également. Donc, c'est un portrait qui est complexe et comme juriste, c'est avec tout ça qu'on doit jongler à la fois si on veut être constructif et trouver des solutions à ces questions importantes. Donc, à la fois un vide juridique, des balises juridiques qui sont posées de l'autre côté par les accords commerciaux et avec lesquels il faut jongler. Si nous traduisons donc la question qui nous est posée dans des termes un peu plus juridiques, donc on nous demande finalement de savoir est-ce qu'il reste un espace juridique pour que les États puissent adopter des lois nationales ou puissent ratifier des traités internationaux qui favorisent la sécurité alimentaire. Alors, à cette question-là, je réponds oui, mais au prix d'efforts soutenus et au prix d'une volonté, évidemment, politique claire à ce sujet-là. Comment ça se traduit au Québec? D'abord, je pense qu'au Québec, il faut cesser de penser ou cesser de se laisser dire que les accords de libre-échange ne laissent plus de place pour que les États puissent adopter des lois qui favoriseraient la sécurité alimentaire. C'est faux. Il reste toujours un espace pour de telles réglementations, mais encore faut-il que les États en soient conscients, qu'ils comprennent quel est cet espace-là pour ensuite, évidemment, pouvoir l'utiliser de la bonne manière. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les différents rapporteurs des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et même l'Organisation mondiale de la santé sont très clairs à ce sujet-là. Une partie de la solution à l'insécurité alimentaire, c'est de reconstruire les systèmes alimentaires territorialisés et d'en assurer aussi la diversité. Ces systèmes alimentaires territorialisés, on aura peut-être l'occasion d'en discuter davantage, mais ils répondent un peu aux craintes là, qui ont été évoquées précédemment, c'est-à-dire l'autosuffisance et la résilience aussi, entre autres. Donc, même les organisations internationales qui s'intéressent à ces questions-là prônent comme une partie de la solution, un retour à une prise en charge régionale, voire même locale, des questions alimentaires. Si nous appliquons ça au Québec, évidemment, ça veut clairement dire que le Québec doit valoriser, protéger, promouvoir ses productions locales, les productions d'ici. Je dois dire, dans le domaine du droit de l'agroalimentaire, le Québec, on a traditionnellement été très avant-gardiste et très novateur. Je tiens à préciser que nous détenons un édifice juridique qui est fort riche et duquel on peut être très fier. Notamment, je pense entre autres à la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants qui permet aux produits québécois d'obtenir une indication géographique ou une appellation biologique. Donc, quand on pense évidemment à toute la question des systèmes alimentaires territorialisés, c'est une des premières lois qui nous vient en tête, bien entendu. Et on peut en être d'autant plus fier qu'on est la seule province à l'avoir au Canada. Donc, un édifice juridique duquel on peut être fier, mais force est de constater qu'on a perdu depuis quelques années du terrain sur cet aspect-là, contrairement à ce qui se passe en Colombie-Britannique et en Ontario. L'Ontario, elle, s'est clairement positionnée en faveur de ses productions locales, a clairement indiqué dans le cadre d'une loi sur les aliments locaux qu'elle allait protéger, valoriser ces productions-là, trouver des débouchés pour ces aliments-là. Et donc, c'est une prise de position, comme je disais, très claire. Cette loi ontarienne, donc vous l'aurez compris, ne sort pas d'un chapeau. Là, elle fait partie d'une mouvance internationale, notamment en France. Il y a un projet de loi très intéressant qui porte sur l'ancrage territorial de l'alimentation qui va à peu près dans le même sens que la loi ontarienne. Et il y a d'autres exemples à travers le monde. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle le Québec devrait rester en marge de ces changements majeurs. Et au contraire, à mon avis, s'il le reste, ce serait tout à fait néfaste.
L'insistance et des mesures incitatives à la production et l'achat d'aliments locaux apparaissent donc comme des moyens de faire contrepoids à une plus large libéralisation du commerce. Ici Lionel Levac. Le retard du Québec face à l'Ontario et la Colombie-Britannique, que note Geneviève Parent, sera-t-il comblé dans la politique bioalimentaire que promet le ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Pierre Paradis, avant la prochaine élection générale au Québec? Dans le prochain blog, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, parlera à son tour de souveraineté alimentaire. Au revoir.